Il est 18h, merci d'écouter Europe 1.
L'Europe va-t-elle manquer de vaccins anti-Covid ? Pfizer annonce des retards dans la livraison de ses doses dans toute l'Europe à partir de la semaine prochaine. Retard estimé entre 3 et 4 semaines.
Alors que le virus, lui, continue de circuler, la deuxième semaine de janvier enregistre une hausse très importante des contaminations, plus 30%.
Carrefour ne passera pas sous pavillon canadien. Bercy freine des quatre fers pour empêcher la prise de contrôle du géant français de la grande distribution.
La disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn est un mystère supplémentaire. L'activation du compte Facebook de l'infirmière qui intrigue les gendarmes.
L'exploit d'une équipe de chirurgiens lyonnais, ils viennent de greffer deux épaules et deux bras sur un homme amputé après un accident.
Et puis appelez-le Monsieur Dakar. Stéphane Peterhansel remporte l'épreuve pour la 14e fois de sa carrière, c'est un record.
La Bourse de Paris a terminé en baisse ce soir, moins 1,2% à 5611 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Et la neige est de retour Anissa.
Eh oui, le répit était de courte durée puisque demain nous aurons un nouvel épisode neigeux qui va toucher le nord du pays. 13 départements en vigilance orange, neige et verglas dès demain matin 6h. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On peut dire que l'annonce de Pfizer jette un trouble ce soir. Le laboratoire affirme que la livraison de ces vaccins devrait ralentir dans les prochaines semaines.
Et forcément, inquiétude des États membres qui s'interrogent. Est-ce qu'il y aura assez de vaccins pour tout le monde ? Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. On vous retrouve, on va essayer de comprendre avec vous Isabelle, pourquoi ce retard ?
Eh bien, Pfizer explique dans un communiqué qu'il doit fournir plus de doses que prévu au départ. Souvenez-vous, les 27, par exemple, ont conclu récemment un contrat pour 300 millions de doses en plus. Le labo transforme donc son usine belge de Puurs. C'est aujourd'hui la seule qui fournit ce vaccin à toute l'Europe. Il va devoir obtenir de nouvelles autorisations pour cela. Cela aura un impact donc sur les livraisons de fin janvier à début février, précise l'entreprise, sans dire dans quelle mesure. Mais en contrepartie, promet-elle, cela permettra d'augmenter considérablement les livraisons à partir de fin février. La présidente de la Commission européenne s'est voulue rassurante cet après-midi. Ursula von der Leyen a parlé au patron de Pfizer.
Le PDG de Pfizer m'a assuré que toutes les doses prévues seraient bien livrées au premier trimestre. Il s'occupe personnellement d'essayer de réduire le délai et de faire qu'il rattrape le retard le plus vite possible. C'était très important de lui transmettre le message que nous avons urgemment besoin des doses garanties au premier trimestre.
Les contrats conclus avec les laboratoires prévoient en effet des objectifs de livraison par trimestre, mais pas d'engagement sur leur rythme. Alors cette annonce inattendue de Pfizer prend de court les pays européens, elle va compliquer les stratégies de vaccination au moment où elles prennent de l'ampleur. Dans une lettre commune, les ministres de la Santé de 6 pays du nord de l'Europe se plaignent ce soir d'une situation inacceptable qui va retarder la vaccination pour les populations à risque.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. La semaine dernière, on vous expliquait que les contaminations à l'occasion de Noël avaient bondi. Eh bien, on a maintenant les chiffres pour le nouvel an, Christophe.
Oui, Jean Castex, le Premier ministre, avait salué le côté raisonnable des Français pour ces fêtes de fin d'année. Mathieu Charrier, est-ce que ça se vérifie dans les chiffres ?
Alors oui et non, je vous donne le chiffre. Plus 30% d'augmentation de cas positifs la deuxième semaine de janvier, ça veut dire des contaminations autour du jour de l'an et du réveillon. Donc c'est plus que pour Noël, on est à 17% d'augmentation, mais ça reste contenu, et surtout avec 18 000 cas confirmés en moyenne chaque jour, et une augmentation particulièrement marquée chez les moins de 20 ans. Avec ces 18 000 cas, on est 4 fois en dessous de ce qui se passait au moment du pic de l'épidémie. Alors il y a quand même d'autres mauvaises nouvelles, le taux de positivité des tests continue d'augmenter, il est désormais de 6,5%, c'est 1,1 point de plus que la semaine passée. Et puis on note 9 000 nouvelles hospitalisations enregistrées entre le 4 et le 10 janvier. Là aussi, c'est un indicateur en hausse. Concernant maintenant, vous savez, la circulation du variant anglais, les premières estimations semblent se confirmer au fil de l'étude. Il serait responsable de 1 à 2% des cas de Covid-19 en France. La seule petite bonne nouvelle, si je puis dire, dans tout ça, c'est que les Français se font de nouveau tester. Le nombre de tests réalisés chaque semaine est en hausse. Il atteint presque maintenant les 2 millions.
Explication Mathieu Charrier.
C'est l'autre gros dossier de la semaine pour le gouvernement, la tentative de rapprochement entre Carrefour et un groupe canadien.
Couche-Tard, c'est le nom de cette chaîne de magasins qui veut mettre la main sur l'un des géants français de la grande distribution. Les discussions avaient bien avancé jusque-là, mais c'était sans compter sur l'opposition de Bercy. Et Emmanuel Dutheil, vous pouvez nous révéler ce soir que Bruno Le Maire l'a dit très clairement au cours d'un entretien en tête-à-tête avec le patron de Couche-Tard.
Oui, Alain Bouchard, c'est le patron de Couche-Tard. Il était cet après-midi dans le bureau de Bruno Le Maire et selon l'entourage du ministre, ce dernier a été très clair. Il lui a dit que ce ne serait pas possible en l'état. L'état, sans être actionnaire de Carrefour, a des moyens pour bloquer cette opération. La distribution alimentaire des Français a été ajoutée l'an dernier à la liste des secteurs pour lesquels la France peut dire non à des investissements étrangers. Du côté de Bercy, on critique aussi assez fortement la façon de faire. La direction de Carrefour a oublié de prévenir le ministre et pourtant les occasions n'auraient pas manqué. Ils sont copains de promo, ils ont déjeuné ensemble quelques jours avant, mais bizarrement Alexandre Bompard, patron de Carrefour, n'a rien dit, révèle l'entourage du ministre. Du côté des deux protagonistes, on commence quand même à se rendre compte que ce ne sera pas simple de contourner cette oucase. Il y a eu des discussions, des rencontres ces derniers jours entre Alain Bouchard et Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. On ne veut pas jeter le bébé avant l'eau du bain. Avant d'avoir discuté, dit-on côté canadien, il y a eu, semble-t-il, aussi des discussions directes entre le Premier ministre canadien et le président de la République. Mais un rachat pur et simple, en tout cas comme c'était imaginé, semble bien relativement compromis ce soir.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Dans le Calvados, on redoutait le pire et c'est malheureusement confirmé. Les corps sans vie des trois marins pêcheurs viennent d'être retrouvés.
Ils avaient disparu la nuit dernière après le naufrage de leur bateau de pêche. Le navire avait donné l'alerte pour une avarie de gouvernail et c'est au cours de son remorquage qu'il a été emporté par une lame avant de sombrer dans une eau estimée à moins 10 degrés.
Dans le Tarn, le mystère reste entier autour de la disparition de Delphine Jubilard. Cette infirmière n'a plus donné de nouvelles depuis un mois.
Les recherches n'ont rien donné jusqu'à présent. Les gendarmes et le juge d'instruction poursuivent évidemment leurs investigations, notamment autour du compte Facebook de la jeune femme.
Ses proches ont signalé qu'il s'était brièvement activé sans que l'on sache très bien s'il s'agissait d'un bug informatique ou d'un piratage. Maître Philippe Pressec, l'avocat des proches de Delphine Jubilard.
Mes clients sont membres d'un groupe Facebook et sur ce groupe est apparu un message émanant du compte Facebook de Delphine Jubilard, qui a ému beaucoup de gens. Évidemment, mes clients ont immédiatement pensé que c'était une façon pour elle de montrer qu'elle était là, qu'elle était vivante. Il y a eu des likes, il y a eu des messages, mais qui n'ont été sans réponse. Et puis ensuite, tout a été supprimé. Mais en réalité, c'est un message qui est entièrement blanc. Il semble qu'il soit impossible de publier un message vide sur Facebook. Donc c'est l'hypothèse du bug qui doit prévaloir. Cela dit, dans une affaire où nous sommes confrontés à un mystère totalement affolant sur la disparition d'une personne, que vienne aujourd'hui se greffer un deuxième mystère sur un message qui apparaît et que Facebook se mette à bugger juste sur le compte de Delphine Jubilard est absolument incroyable.
Maître Philippe Pressec, l'avocat des proches de Delphine Jubilard, propos recueillis par Benjamin Péter.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h09, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre avec cet exploit de la chirurgie, une greffe d'épaule et de bras sur un homme qui avait été amputé après un accident.
Oui, c'est une équipe de chirurgiens lyonnais qui a réalisé cette première mondiale sur un patient de 48 ans, une véritable prouesse, Romanoquet.
Oui, car jamais une greffe n'avait inclus en même temps deux bras et deux épaules. Une opération d'une complexité inédite, saluée par Éric Lenoble, chirurgien et membre de l'Institut Main-Épaule à Paris.
C'est quand même des gros segments qui ont été greffés. Les épaules étant quand même des zones anatomiques un petit peu compliquées. On a des muscles, on a de la peau, on a des vaisseaux. Le contact entre le greffon et le receveur et le patient est une surface anatomique beaucoup plus importante. Cette opération inédite est plutôt l'aboutissement des connaissances qu'on a acquises jusqu'à présent. C'est un exploit logistique, c'est un exploit d'organisation.
Car rendez-vous compte, la greffe a tout de même demandé 15 heures de travail au bloc opératoire. Le patient, c'est un Islandais de 48 ans, un électricien amputé des deux bras après s'être électrocuté sur une ligne à haute tension. Deux jours après l'intervention, l'homme est dans un état stable. L'opération a quand même mobilisé les équipes de 5 hôpitaux lyonnais différents, plusieurs dizaines de soignants. Il faut dire que la ville compte parmi les meilleurs spécialistes en matière de greffe et ils n'en sont pas à leur premier exploit. En 1998, c'est déjà à Lyon que l'équipe du professeur Dubernard a réalisé la première greffe de main au monde.
Effectivement, on s'en souvient. Merci beaucoup, Roman. Ok. Le foot, Montpellier-Monaco, c'est ce soir à 21h en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Et c'est un match que l'on pourra encore voir à la télé pour ceux qui sont abonnés, en tout cas à Téléfoot.
Allez, on va passer au désert. Le Dakar, on va l'appeler Monsieur Dakar. Stéphane Peter-Hansel s'impose pour la 14e fois.
Oui, on pourrait l'appeler aussi le roi du désert, le Français qui l'a emporté dans la catégorie auto, mais il s'était déjà imposé à moto il y a 30 ans. Stéphane Peter-Hansel qui, visiblement, n'est pas rassasié, Julien Froment.
Effectivement, une joie intacte pour Stéphane Peter Hansel, car même s'il l'a remporté pour la 14e fois, le Dakar, le rallye raid créé par Thierry Sabine, reste l'une des épreuves les plus difficiles au monde. Le pilote savoure donc ce nouveau succès qui le fait rentrer un peu plus dans la légende du sport automobile.
C'est toujours autant de pression et en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, chaque course est quand même très compliqué à gagner. Il faut vraiment se donner à fond, il faut être complet, il faut avoir un bon team, il faut avoir une bonne voiture, bien sûr un top copilote. Gagner 14e fois, c'était important. Ça me permet 30 ans entre la première victoire et cette dernière victoire. C'était en 91 la première victoire en moto, là on est en 2021, ça fait 30 ans. Et puis aussi je pense être le seul à avoir gagné sur les trois continents. Donc ça, on est quand même des privilégiés aussi.
Épreuve de sa longévité quand Stéphane Peter Hansel a gagné son tout premier Dakar, donc en 1991. L'Argentin Kevin Benavides, vainqueur de l'épreuve cette année sur moto, avait seulement 2 ans, même pas encore l'âge de faire du vélo. Peter Hansel, monsieur Dakar, est insatiable, inusable. Il vise désormais un 15e titre l'an prochain. Toujours dans le désert d'Arabie Saoudite.
Gagner à moto et en auto, c'est rare ici, mais ça signe quand même la performance de cet homme extraordinaire, 55 ans. Hein.
La patte d'un champion. Ouais. Merci Christophe Lamar, on vous retrouvera bien sûr pour un nouveau journal à 19h. Et le Dakar, on y reviendra dans le débat du Club des Idées à 19h20. Comment lui redonner son lustre d'antan ? La météo, on vous retrouve Anissa Haddadi avec, vous nous le disiez, donc ce nouvel épisode neigeux pour demain.
Oui, c'est à cause d'une nouvelle perturbation, Isabelle, qui va arriver demain par le nord-ouest et qui va toucher le nord du pays et pratiquement toutes les régions qui se situent au nord de la Seine et même jusqu'à l'Auvergne. Nous avons 13 départements placés en vigilance orange, neige, verglas. C'est encore un épisode de neige remarquable puisque demain nous attendons 3 à 10 cm de neige. En ville, en plaine, il va neiger aussi sur les montagnes, mais c'est surtout dans les villes que ça va nous intéresser. Et attention, le danger sera double demain, puisque les températures seront particulièrement basses, autour de moins 8, moins 5 degrés. Du coup, le risque de verglas sera très important. À l'est, la neige arrivera dans la nuit de samedi à dimanche. Sur la côte atlantique, c'est une journée où le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, avec quelques averses. Et puis au bord de la Méditerranée, le ciel va hésiter, là aussi entre nuages et éclaircies. Mais attention, Mistral et Tramontane soufflent toujours très fort. Donc demain matin, je vous le disais, nouvelle chute des températures avec moins 8 à Metz, moins 7 pour Nancy, moins 6 à Belfort, moins 4 à Auxerre, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 1 à Paris, 2 à Marseille et 6 à Brest. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons des températures quasi égales à celles d'aujourd'hui, 1 à 13 degrés, 1 pour Strasbourg, 7 à Paris et 12 à Brest.
Il va neiger demain dans la capitale, Anissa ?
Il va neiger à Paris et sur la petite couronne.
Bon, à 18h30, vous nous donnerez en tout cas la liste exacte des 13 départements qui sont placés en vigilance. À tout à l'heure, Anissa.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.